prochaine.
Bienvenue sur le podcast. Le podcast de Trouver Objet Caché. www.tentacules.net. Le site francophone dédié au jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. À vous les poulpes.
Fungouille les poulpes. Alors, oui. Eh oui, vous avez cru entendre, alors que je le coupais, notre nouvel intervenant. Enfin, quand je dis nouvel intervenant, excuse-moi, très cher inconnu derrière le... Bon, c'est vrai que non, on n'est pas à la télé, donc j'allais dire, tu peux sortir de l'ombre. Mais en effet, la personne... la personne qui vous parle est une personne bien connue, qui vous aide très souvent sur les forums de Toc, qui est là depuis le début de Toc, et qui est...
De Marigny.
Eh oui, car, chers amis poulpes et poulpettes, De Marigny est là ce soir car Wolf est mort, il a fondu, il faisait trop chaud.
Ah, il nous a quitté là.
Wolf nous a quitté dans la chaleur. Et donc j'ai appelé à mes côtés le spécialiste du sujet que nous avons traité dans ce podcast. Alors à laquelle je vous parle, on vous parle. J'ai pas encore fait le générique, mais normalement vous devriez connaître un peu le thème avec le générique plein d'humour, de bonne humeur et de détente. Mais donc pour être plus précis, le Poulpcast, numéro 12, celui que nous sommes en train d'enregistrer, et nous avons judicieusement nommé le Poulpcast qui dégèle. Car pourquoi, cher de Marigny, l'avons-nous appelé comme ça?
Alors attends que je réfléchisse déjà. Oui, c'est parce qu'on va parler mais de Delta Green, voilà, ça y est, ça me revient.
Exactement, ce n'est pas lié à la température, mais c'est lié à Delta Green. Vous nous l'avez pas mal demandé dans les forums, et comme Toc est au service de ses clients qui payent par leur nombre de clics sur les pubs, nous sommes à votre service. Non, on a remarqué qu'en effet, il y avait pas mal de questions sur Delta Green, et puis j'irais comme c'est quelque chose dont on parle pas forcément toujours souvent sur Toc, et par contre on a pas mal de matériel avec Delta Green France et puis honorable correspondant et tout ça. On a répondu à votre appel et on va vous faire un podcast sur Delta Green à part entière qui va s'articuler principalement sur ça va être un peu le bordel quand même parce qu'il y a pas mal de choses à discourir, mais les gros points, on va vous parler d'abord du contexte hein, qui a vu la naissance de Delta Green, c'est-à-dire d'où ça vient, pourquoi, est-ce que ça a pris, où ça va aussi, hein, parce que comme vous le savez, le Delta Green revient, il se braque. Il revient normalement cet été, je crois d'ailleurs, hein, c'est ça normalement.
Et oui, countdown.
Ouais, je crois que c'est pas... ça.
Ouais, enfin, ils avaient l'air de dire que peut-être la timeline allait être un peu repoussée, on allait avoir une sortie, peut-être un peu à la sortie de l'été quand même.
Ouais, alors voilà.
Fin d'année.
Donc fin d'année, ça va revenir avec du countdown et puis du Delta Green livre de base par sans détour. Donc on va vous parler un peu de ça, on va vous parler aussi du vif du sujet, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que jouer à Delta Green, comment on y joue, quelles sont, j'irais les idées hein, qui sous-tendent ce setting, comment bien y jouer, comment moins bien y jouer. Et puis après, on va vous donner un peu un palmarès des inspires sur lesquels on peut puiser, des autres settings, parce que bon, on parlera quand même de Delta Green France, hein, notre bébé, surtout le bébé de Marigny.
Oui, le petit qui grandit.
Le petit qui grandit, et puis qui apparemment, vu les téléchargements, a pas mal de succès sur Toc. Donc voilà un peu les trois premières, les trois grosses parties qu'on va aborder. Donc pour commencer, on va parler donc du contexte général. Donc pour être précis, Delta Green, c'est... Alors, on va faire un peu une timeline. Hein. C'est... Je vais te laisser d'ailleurs le faire de Marigny, vu que c'est toi qui l'a rédigé.
Oui,
pour
tout
vous resituer un peu d'où vient Delta Green.
Oui, donc là, on a, enfin, on va dire, une initiative un petit peu malheureuse, on va dire, au début, au début du jeu, de Chaosium, qui, au début des années 90, nous a servi un insipide Cthulhu 90, que Descartes avait tout de même traduit, malheureusement. qui apportait pas grand chose en termes de jeu, ça apportait juste un petit peu quelques règles, un listing d'armes et comment
le fameux dépliant d'armes à la fin en format 3x4 je crois avec à quoi voilà, ressemble un... Donc, si je résume ta pensée, on va dire que tu 90 un peu à oublier hein, c'était une transposition brute de Fonderie sans aucune adaptation. Un échec.
Voilà, exactement. Alors en plus, c'était sorti vraiment au tout début des années 90. C'est sorti en 92 en France. Et puis ensuite, il y a eu la révolution
Télévisuel.
télévisuelle, X-Files, bien évidemment, qui a amené un nouveau genre et surtout un genre à succès, qui avant ne fonctionnait pas trop, en tout cas surtout à la télévision. Et qui a permis de banaliser une certaine culture américaine autour d'un certain nombre de concepts, enfin de sous-cultures vraiment, notamment pour tout ce qui concerne les histoires de théories du complot, les histoires
Les gens
des hommes en
urbains, là.
noir, voilà, le gouvernement fédéral qui essaye d'asservir l'Américain moyen dans son étreinte.
Mais c'est vrai que c'est vrai que X-Files, c'était quand même une série révolutionnaire parce qu'elle traitait d'un sujet. Je dirais qu'on a eu des séries SF avant, mais c'était super Wiz, c'était super rock'n'roll, c'était genre chapeau moulant et bottes de cuir avec des contrôles mentaux et tout ça, c'était Star Trek. On avait de la SF qui était un peu débridée, qui était un peu, je dirais, très très colorée quoi. Hein, on se rappelle les costumes. Alors que là, on se retrouve avec, je dirais, une vraie série télé très noire, très très sombre, très très conspirationniste comme tu dis. Qui s'ancre vachement dans le réel, hein, qui fait très réel quoi. Qui va quand même durer, je sais plus, 11 ou 12 saisons, je crois. Il y a eu déjà deux films. Et donc vraiment, c'est vrai que c'est l'élan, je sais pas, conspirationniste. Alors je sais pas d'où vient cet élan de X-Files. Peut-être, je sais pas, il y a peut-être une ouverture de vieux dossiers, non? Je sais même pas d'où ça vient. À l'origine, c'était Chris Carter, je crois, qui était à l'origine de X-Files.
Oui, voilà, c'est ça. Oui, puis enfin, c'était vraiment ça. Le service de Mulder, c'était effectivement un peu tous les dossiers qui avaient été enterrés par le FBI, et on avait ce pauvre gars dans son coin qui avait réussi à passer l'examen d'agent fédéral et dont personne ne voulait parce qu'il était vraiment trop bizarre. Et donc, on l'avait foutu dans un placard, et il arrivait à partir de ces dossiers non classés à trouver les histoires les plus abracadabrantesques possibles, pardon.
C'est clair, ouais. Alors, parce que ça allait, c'est vrai que ça allait des ce que tu disais, des mythes urbains, ça allait sur les communautés, hein, qui pouvaient être un peu sectaires, du style les Mormons, des choses comme ça. Je me rappelle d'épisodes bien flippants. Les gens un peu mutants, hein. Il y avait quand même des mutants. Alors c'était pas du mutant sympa avec son costume en lycra, hein. C'était le mutant crade qui suinte dans votre cheminée et qui vient
Exactement.
vous violer dans votre sommeil. Hein. C'était, je me rappelle, c'était Dooms, je crois, le personnage là qui pouvait s'étendre. C'était absolument ignoble. Je me rappelle, j'ai des frissons encore.
Ouais.
Il laissait des grosses empreintes vachement longues sur les vitres. Je me rappelle. C'est pour ça qu'il savait que c'était un mutant. Il y avait, c'était un peu le cirque des horreurs et important sur une trame de fond, une sorte de métatrame. Qui a été défendu par Mulder et puis contrecarré par Scully. Non, non, Mulder, ce n'est pas possible, ça ne peut pas être vrai. Pendant 11 saisons. Et donc c'était ça jette clairement les bases de ce qui va se passer 6 ans plus tard, c'est-à-dire
Delta Green, qui sort enfin dans les bacs, publié par Pagan Publishing.
Alors Pagan Publishing, à l'époque, on le connaît pourquoi?
Alors, Pagan Publishing, c'est une très bonne question.
Par une revue. Enfin, ils ont débuté par une revue, principalement, je pense.
Ils ont commencé effectivement par The Unspeakable Oath. Donc surtout John Tynes, effectivement, qui était jeune étudiant encore à l'époque, qui se destinait à une carrière de journaliste et qui avait un besoin compulsionnel d'écrire, mais pas d'écrire forcément que sur ce qui se passait autour de lui pour faire les arrière-pages du fin fond des quotidiens américains, mais également effectivement pour parler de sa passion qui était le jeu de rôle. Et notamment l'un des jeux phares qui l'a beaucoup inspiré, qui était l'appel de Cthulhu, tout à fait.
Ouais, parce qu'en plus, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu dur à se procurer, mais on en parle, hein, vous pouvez les rechercher, The Unspeakable sur Toc. The Unspeakable Oath, c'est quand même un magazine pur Cthulhu, et qui vous filait du matos, quoi. Alors bon, les scénars sont pas tous très bons, il y a des très bons scénars pour Delta Green, ça c'est sûr, mais c'était vraiment un article, 5-6 pages, et du matos à employer. Et dont on pouvait se servir tout de suite, quoi.
Voilà, c'était vraiment en fait, sachant que c'était à la base un fanzine, mais c'est devenu au fur et à mesure un peu beaucoup plus que ça. Il y a vraiment eu un succès et puis une certaine longévité
J'ai eu
qui
quoi,
fait que.
17, 18 numéros, je crois, un truc comme ça, je pense.
Oui, il me semble. Et effectivement, derrière des concepts, pas juste. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses. Enfin, on en retrouve encore aujourd'hui sur le net des petits fanzines, etc. Mais qui ont tendance à être plutôt des recueils de scénarios.
Ouais.
C'est le cas, par exemple, de The Unbound Book,
Ouais.
qui est plutôt de bonne qualité. Mais en fait, il n'y a que des scénars dedans. Il n'y a rien
Il y a
d'autre.
aussi Black Seal, qui
Tout à fait.
en ont
Voilà.
sorti quelques-uns, mais aussi c'est la même chose, t'as raison, c'est vraiment ouais, c'est que du scénar. C'est-à-dire que comme on va vous le faire découvrir dans ce podcast, le settings est tellement bien monté que finalement ce qui avait d'intéressant, c'était de développer soit des organisations ou soit des trames de fond et des scénarios, quoi.
Voilà, donc là, John Tynes, et d'ailleurs, enfin pas tout seul, avec Dennis Detwiller no notamment, on finit par monter en fait une société pour assouvir véritablement leur passion, qui est
Pagan
devenue
Publishing.
Pagan Publishing, et c'est là où ils ont commencé à sortir, sous licence Chaosium, un certain nombre de suppléments, en général un petit peu décalé et qui présentait des alternatives au setup standard de l'Amérique des années 20. Notamment, on peut se souvenir de l'Aube Dorée,
Ouais.
qui présente l'Angleterre victorienne, donc plutôt année 1890, un setup sur une société
Secrète.
oui, secrète et mystique, l'Aube Dorée, qui en plus a véritablement existé. Et
Non,
avec
non.
une conception un petit peu décalée du mythe, puisqu'elle présente en fait surtout tout ce qui est autour de l'ésotérisme, des tables tournantes, des tarots et
Ouais.
un certain nombre aussi de créatures du mythe qui sont pas les créatures standards,
Phare, ouais.
mais et avec une enfin, sans trop déflorer quand même les histoires, mais avec des éléments un petit peu tibétains, avec des histoires sur l'astral, bon, des choses
Une nouvelle
qui vont
vision,
faire
quoi.
penser un peu à du donjon, mais
Mais
voilà
c'est très bien.
une autre vision et une magie aussi un petit peu décalée, un petit peu différente.
Histoire de renouveler, parce que bon, en 99 pour Delta Green, sachant que l'appel est sorti en 81, je crois, aux États-Unis, ou 83, je sais plus. Enfin, ça fait déjà une quinzaine d'années qu'on tourne sur l'Amérique des 20s. Je pense qu'au bout d'une quinzaine d'années, on a bien compris comment ça se passait, hein. On reviendra sur l'aspect de l'époque, mais là, le principe, c'est vraiment de monter. Je dirais que c'est même plus qu'un supplément d'époque, c'est un nouvel appel au Cthulhu, quoi. C'est on reprend l'appel au Cthulhu, on en a tous les fondements, mais on va le restructurer pour qu'il s'ancre dans l'époque. Alors
Voilà, c'est vrai que par rapport à Cthulhu 90 qui présentait juste, enfin en gros c'était l'appel de Cthulhu, mais aujourd'hui, Delta Green, ça présente vraiment, c'est un véritable supplément de contexte qui présente un background riche et dense qui permet d'associer toute cette sous-culture américaine avec les histoires du mythe et en gros comment les choses ont évolué depuis les années 20 jusqu'au début des années 90. Pour faire que bah, finalement le monde tel qu'on le connaît a évolué, mais toujours avec
Il nous ment.
en fond, et oui, en fond on nous ment, avec Cthulhu toujours présent, avec les profonds également, et toutes
Toujours
les
caché dans
autres
l'eau.
divinités, voilà, toujours vivant, toujours prêt à nuire et à détruire l'humanité, mais toujours
Mais c'est vrai que c'était
en
tellement bien.
arrière-plan.
Voilà, c'est tellement bien monté que déjà, ça va être un énorme succès. Que ça va être assez rapidement traduit chez nous par Descartes, et là on va en arriver à un point assez important, c'est que finalement nous les petits Frenchies on va avoir que ça à se mettre sous la dent, bon, jusqu'à ce que Toc intervienne bien sûr. Mais c'est vrai que pour être précis, il y a eu que ça de traduit, quoi. dans le contexte Delta Green, dans mon souvenir, et je crois que mes souvenirs sont à peu près exacts malgré cette chaleur.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi quelques autres suppléments comme Countdown qui ont été sortis par Pagan. Enfin, au final, quand même pas trop et pas tellement de scénarios d'ailleurs, notamment et surtout aucune campagne. Jusqu'à aujourd'hui, mais on va dire tout un tas d'éléments. Il y a aussi des livres qui sont sortis, mais jamais traduits.
Alors, on se rappellera que la... exactement, et on se rappellera que en France, on a eu beau avoir, on a eu beau avoir que le livre de base. Ça n'a pas empêché les magazines de surfer, notamment, je me rappelle de Cassius Belli, hein, avec le réseau divin, oui. Ou des scénarios comme ça, ou l'héritage Greenberg, enfin des. Nous, par contre, je dirais que ça a bien fait triturer les méninges de nos créateurs, genre Tristan Lhomme et tout. On est à chier, maître.
Mais c'est vrai que si on regarde un petit peu tout ce qui a été sorti au niveau de l'appel, notamment toutes les sociétés hors Chaosium qui travaillaient sous licence, ils ont plutôt eu tendance en fait à sortir simplement des suppléments qui proposaient de nouveaux scénarios ou de nouvelles campagnes, mais toujours dans le cadre d'origine de l'Amérique des années 20-30.
Voilà.
Très peu de choses véritablement originales et qui permettent de montrer quelque chose avec un décalage. Là, ces derniers temps, on a eu beaucoup d'initiatives plutôt privées,
voilà,
de la part de joueurs, et même certaines qui finissent par marcher, parce qu'on voit par exemple Cthulhu Invictus qui permet de jouer à l'époque romaine, maintenant devient un supplément officiel.
Ouais, voilà, tout à fait. C'est l'inverse qui a été fait. Enfin, l'inverse, je dirais que c'est le fonctionnement logique, c'est-à-dire que un travail de fan qui devient semi-pro et devient professionnel, comme pour même Cthulhu en mine, hein, c'était parti de là. C'était du développement. Donc si je regarde un peu sur Toc pour faire le tour, donc ils ont sorti donc Delta Green, Countdown. Il y avait les suppléments. Enfin, c'était pas vraiment des suppléments, c'était plutôt des trames et des bouquins. Eyes Only, là, il y en a eu trois. Il y a eu Machinations of the Migo, The Fates et Project Rainbow. Mais je crois que c'est à peu près tout, en plus des Speakable. Alors c'est vrai que par contre, nous, sur Toc, on vous propose quand même pas mal de choses avec le Settings Delta Green France. Si vous connaissez pas, allez-y. Hein, comme d'habitude, on vous laisse une minute. Non, je déconne. donc vous avez pas mal de recherches à faire, hein. Il suffit de taper Delta Green dans le moteur de recherche et vous aurez un paquet de choses qui vont vous sortir à la tête. Il y a eu les honorables correspondants, hein, des fanzines, je dirais plutôt quasiment suppléments toile de fond. On en a déjà deux, hein, qui sont dans les bacs.
Exactement.
On vous a mis pas mal de choses, notamment sur des choses comme la division P4, l'Opus Dei, quelques sectes, le sceptre. Hein, qui avait été qui est quand même pas mal développé. Donc voilà, pendant je dirais la phase de vache maigre où nous on a que Delta Green en français à se mettre sous la dent, Toc vous aide, mais Toc n'est pas seul. Un petit groupuscule s'est mis en place il y a de cela quelques années maintenant qui s'appelle Sans Détour. Et apparemment après nous avoir éclusé pas mal de suppléments et l'arrivée de quelques campagnes, hein, je sais vous excitez tous sur les montagnes hallucinées, hein, mais pas moi. Mais ils vont comme on vous l'a dit au début, Delta Green et bien sûr va être remis au goût du jour, va ressortir, et c'est une bonne chose parce qu'on va enfin avoir Countdown qui est quand même un supplément assez mythique. Alors pour décrire un peu, son principe c'est de décrire, parce que Delta Green, hein, on vous l'a dit, c'est les années 90 aux États-Unis.
Voilà, quand... tout à fait. C'est vrai que c'est assez ciblé effectivement sur cette période-là, et ça, ils sont beaucoup intéressés en fait surtout à ce qui se passait chez eux.
Voilà. Alors je dirais que c'est un peu comme si on prend l'appel de Cthulhu. Countdown, ça va être un peu les années folles étendues, quoi. C'est-à-dire que on va vous présenter Delta Green, mais à travers le monde. Donc comme tu disais, principalement l'Angleterre, le Royaume-Uni, ouais. Qui est un settings quand même assez pas mal développé, mais ils vont couvrir plus ou moins exhaustivement le monde entier. Parce que bon, dans ce podcast, on va essayer de pas trop vous dévoiler de choses, hein, histoire que si vous vous mettiez à jouer à Delta Green, vous disiez pas, ah ouais, surtout qu'ils l'ont dit, de Marini, il a dit que c'était à cause de ça, et voilà. Donc non, on va vous dire le plus léger possible, mais on va quand même vous en parler. Et c'est vrai que Countdown, étant, je dirais, le jeu au monde entier, particulièrement à l'Angleterre, mais au monde entier en général, quoi.
Et Delta Green France, leur cible sur la France.
Alors là, c'est du bon français, du bon franco-français. Là, on vous a bien ciblé parce que il faut le savoir que autant pour les années 20, on aurait un peu plus de difficultés, j'irais une transcription. Enfin, ça va être une transcription un peu textuelle, enfin texto du settings de l'appel au Cthulhu. Autant pour Delta Green, on a nos vraies spécificités, hein. Nous, petits Frenchies, avec nos organisations, nos petits secrets, nos sectes, nos tarés du coin, nos organisations terroristes. Enfin, on a de quoi faire, hein. C'est pour ça qu'on a réussi à avoir quand même quelques suppléments sur TOC et que, enfin, je pense qu'il y aura peut-être un, je sais pas, de Marini, s'il y aura un honorable correspondant 3, je pense, peut-être.
Alors c'est en préparation. Tout à fait. Mais ça avance doucement. On va essayer de le sortir, on va dire un peu plus rapidement que n'est sorti le 2 après le premier, quoi.
C'est pour du 2011, quoi, tranquille.
Voilà, tranquille.
Bon, de toute façon, enfin, allez les voir, vous verrez qu'il y a du matos et vous comprendrez tout de suite que bon, il faut un certain temps, hein, pour rassembler. Et puis en plus, bon, maintenant, De Marini est obligé de vivre caché, hein. On brouille sa voix, il a pas du tout une voix comme ça parce qu'il faut pas qu'on le reconnaisse. C'est les RG qui se.
Si avec les RG, ça irait, hein, c'est surtout la PGSE.
Voilà, exactement. Et donc voilà, donc pour vous faire un bilan, voilà, Candan, enfin Delta Green. Un renouveau dans l'appel au Cthulhu dans les années 90, un truc qui part vraiment super bien, qui se vend très très bien aux États-Unis et en France, qui surfe sur la vague du moment, c'est-à-dire le conspirationnisme. On vous en parlera dans les inspirations, mais bon, maintenant, je suis sûr que vous avez déjà plein d'idées en tête, vous verrez, de scénarios, hein, ça fourmille, hein, il suffit de regarder la télé ou de regarder des séries ou quoi que ce soit, vous en avez partout. Et donc voilà, quelque chose qui marche très bien. Et finalement, on peut se dire quelque chose qui va bien se vendre, mais qui n'est pas tant joué que ça. C'est là où on va rentrer un peu dans le vif du sujet, parce que il faut l'avouer, malgré son succès, notamment grâce à l'écriture, hein, parce que franchement, Delta Green à lire, c'est un peu du caviar, hein, quand même. C'est vraiment sympa.
Bah, on est face à des gens qui sont vraiment des écrivains, quoi. Donc voilà, toute la partie contexte, voilà, c'est vraiment impeccable. C'est du velours et on peut dire ça. C'est même un supplément à la limite qu'on pourrait lire sans même le jouer.
Je crois que ça fait parmi des suppléments parmi lesquels moi j'ai peut-être lu en entier. Parce que bon, on vous dit c'est un nouveau setting, mais attention, c'est très très bien fait. C'est-à-dire qu'on va vous expliquer la transition. Le livre va vous expliquer la transition, comment on est arrivé à une horreur jusqu'aux années 70, enfin jusqu'aux années, pardon,
90.
Et comment ça a évolué, Back to the Future. Marty, la voyage dans le temps, Marty.
Et si on compare même par exemple au livre de base de l'appel de Cthulhu, le livre de base présente un petit peu le setting, Lovecraft, etc. Mais en fait, il conseille surtout de lire les histoires de Lovecraft pour vraiment s'en imprégner. Donc finalement, ça explique pas tant de choses que ça sur l'univers. Alors que pour Delta Green, bah bien évidemment, Lovecraft ayant passé à trépas depuis, il n'a pas pu écrire d'histoire contemporaine. Ouais. Et là, bien évidemment, il y a tout un historique qui est développé pour expliquer comment l'humanité et surtout les séides et les déités du mythe ont évolué elles-mêmes, voilà. Se sont organisées de manière à ce qu'on en arrive dans les années 90 sans avoir le cataclysme et toujours avec en ligne de mire très rapprochée. La fin
de plus en plus. C'est vrai, tu me le faisais remarquer dans la préparation du podcast, hein, bien sûr, parce que nous préparons toujours les podcasts. Et donc, dans cette préparation, tu me disais qu'en effet, on peut faire un peu ce rapprochement en ce sens que, ah, là, le camion poubelle, donc, vous auriez un camion poubelle derrière. Donc que Lovecraft en était à son époque écrivait sur son époque, sur l'époque qu'il connaissait, ça prenait place dans son époque. Et finalement, Delta Green écrit en 90, ils ont pris le même principe, c'est-à-dire qu'ils écrivent sur leur époque pour donc quand on, là maintenant on rentre dans le vif du sujet pour vous pour nous offrir finalement un cadre de jeu qui dont la plus grande caractéristique est finalement d'être très abordable parce que eh ben on sait comment ça se passe.
Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut dire une des critiques, notamment des jeunes joueurs par rapport à l'appel de Cthulhu, c'est qu'il faut tout de même s'approprier l'univers des années 20. Donc, voilà, il faut préparer. Donc, si on n'est pas un gardien historien, si on n'a pas envie de lire, si on n'a pas envie de s'embêter, et qu'on préfère consommer des séries télé tout en buvant du coca et en se bourrant de popcorn, dans ces conditions, c'est beaucoup plus facile de jouer dans l'univers moderne, parce qu'en fait, on a déjà accès à tout, on sait déjà comment ça marche, on a les clés de cet univers, et à partir de ce moment-là, il n'y a plus qu'à insérer dedans des aventures avec une connotation de mythe de Cthulhu et en plus en faisant jouer à des personnages des agents fédéraux avec un peu un setup service secret
parce que ça voilà
beaucoup de mystère quoi.
C'est le gros point d'entrée, hein. C'est pour ceux qui connaissent pas encore Delta Green, mais ça normalement toute partie de Delta Green hein, commence comme ça, on vous dévoile rien. Le principe de Delta Green, c'est que, pardon, vas-y.
Ouais, c'est surtout qu'enfin on a fait un gros setup X-Files au début.
Oui, c'est vrai.
Mais en fait Delta Green, c'est pas le crossover X-Files Cthulhu. Même s'il y a beaucoup de proximité entre les deux, il y a quand même un setup très particulier, c'est-à-dire qu'on va pas jouer juste Mulder et Scully perdus dans leur coin à essayer de dévoiler tous les mystères de l'univers et puis finalement se retrouver à chaque fois. Voilà, c'est pas possible.
C'est clair que ça va être très très différent et ça introduit un des points qui fait que Delta Green est vraiment un jeu à jouer, je dirais, parce que fini l'introduction pourrie de comment je vais faire cohabiter en début de scénario un antiquaire, un parapsychologue, un dilettante et une écrivain.
Et oui. Et comment après tous ces gens-là laissent tomber leur boulot, prennent leur valise d'investigateur, s'en vont aux quatre coins du monde.
Je suis un juge, mais j'ai vachement de temps devant moi. J'ai toujours au moins 3-4 mois pour mener l'investigation dans l'occulte.
C'est ça, exactement.
Alors que là, pour être précis, Delta Green, comment on commence?
La Delta Green, on commence déjà tous les personnages dont sont des agents fédéraux.
Voilà.
Alors pas forcément du FBI, hein, parce qu'il y a quand même, c'est ça qui est intéressant aussi au niveau du jeu, c'est que tout agent fédéral de n'importe quelle agence, à partir du moment où il a la possibilité de porter une arme, c'est-à-dire qu'il est du coup un véritable investigateur sur le terrain, peut devenir un personnage joueur. Et franchement, ils ont fait un boulot considérable parce qu'on découvre des agences américaines, mais dont on n'avait absolument aucune idée, quoi. Tout le monde connaît la CIA, le FBI, mais il y a même des gars de
du département de la défense.
Enfin, du département de la défense, mais même dans le ministère de l'agriculture, il y a des gens qui travaillent pour les eaux et forêts et qui se baladent aussi avec leurs flingues sur le côté. Voilà.
Et c'est vrai, ce que tu dis, c'est que très important, c'est que là, tout est jouable. C'est-à-dire que autant on va se dire, voilà, un hobo, donc un espèce de mendiant dans les années 20, à quoi ça va servir de jouer, à part si c'est un scénar où vous êtes tous des mendiants et c'est le mendiant club qui débarque à Londres. Autant là, si on prend quelqu'un des eaux et forêts, il suffit que qu'il y ait des scènes où on se balade dans les dans les parcs nationaux, ou alors il aura les contacts.
Exactement.
Les contacts locaux, quelqu'un qui va être dans la DEA là pour Drug Enforcement Agency ou Enforcement Agency. Agency. Et donc par exemple là, ça va être quelqu'un qui va aussi avoir des contacts, qui va connaître les drogues. Donc, qui vous dit drogue, ça peut dire vraie drogue, ça peut dire drogue plutonienne, machin, drogue de l'IAO. Enfin, le fait est que c'est vrai que quand vous lisez Delta Green, moi je me rappelle, la première impression c'est que tout est jouable. Ils ont fait un settings où ils te listent Alors si vous voulez faire les show guys, hein, vous faites des black bags de la NSA et tout ça, mais voilà, vous pouvez dans la NSA, vous allez avoir le spectre de l'informaticien fou qui va pianoter pour essayer de percer à jour des dossiers, jusqu'au gros bourrin armé jusqu'aux dents avec ses Night Google et puis qui va être en intervention. Donc vous avez un contexte qui va vous permettre de rassembler un groupe d'investigateurs complètement différents. C'est-à-dire que vous serez pas obligé de vous dire, voilà, non, attends, j'ai un parapsy, alors il me faut aussi quelqu'un qui soit un peu dans le contact, alors on va dire, je sais pas, un aventurier, un guide, un truc comme ça. Là, non, vous prenez tous vos persos et c'est quand même très très rare qu'une équipe de 3-4 personnes créée à partir du bouquin ne soit pas jouable, quoi. Tout le monde sera jouable et en plus, ça va, c'est ce que tu dis, c'est que ça va donner une équipe complètement différente. Vous allez vous retrouver avec un gardien des parcs et forêts, confronté à un mec du FBI et tout ça. Et finalement, je dirais, qu'est-ce qui va les lier dans l'investigation?
Alors, ce qui va les lier dans l'investigation, bah, bien évidemment, c'est la mission. Parce que tous ces personnages aussi, pourquoi est-ce qu'on joue des agents fédéraux et pourquoi est-ce qu'on joue pas le shérif du coin? C'est parce que le pauvre shérif du coin, une fois qu'il arrive à la frontière de l'État, eh ben, il est monsieur tout le monde. Il peut plus rien faire. Alors que l'agent fédéral, lui, c'est pas le cas. Il a une capacité de projection et d'intervention sur la totalité, des États-Unis. Et même des fois un petit peu au-delà. Enfin, on le voit notamment après dans les années 2000. Donc, on sort un petit peu du scope de DG, mais avec des capacités d'intervention dans des pays frontaliers des États-Unis,
Tout à fait.
voire même à l'étranger ou des pays notamment pour lesquels l'État sur place n'a pas une force très très importante. Et donc, du coup, va laisser un État plus fort que lui s'ingérer dans ses affaires. En revanche, effectivement, on n'intervient pas forcément à tous les niveaux, parce que les agents fédéraux ont aussi des responsabilités sur des crimes fédéraux.
Tout à fait.
Donc voilà. Alors, par contre, évidemment, le bouquin ne rentre pas trop dans ce genre de considération, de manière à laisser aux gardiens un large spectre d'intervention.
Et puis c'est vrai que c'est en plus c'est quelque chose, c'est pour ça qu'il faut que nous on fasse attention en tant que Frenchie, c'est que c'est quelque chose qui est intégré dans la culture américaine, le fait d'avoir plusieurs États et que les États aient finalement leurs spécificités, leurs lois, leur
Voilà, tout à fait.
organisation. Et si vous vous rappelez bien X-Files, c'est ils viennent toujours faire chier le mec du coin, finalement le type de l'État. Et eux, ils débarquent, salut FBI, et hop, ils peuvent finalement s'intégrer et intégrer la mission, quel que soit l'État dans la juridiction finalement dans laquelle ils sont, quoi.
Voilà, exactement. Et puis, donc, aussi par rapport à la mission, il y a un point particulier qui est celui du chef. C'est-à-dire que bien évidemment, ces agents n'agissent pas de leur propre décision, ils ne se saisissent pas d'une affaire parce qu'ils en ont envie, mais parce qu'on leur confie cette mission, il y a un problème à régler, et vas-y, tu dois réaliser la mission, la mener à bien, et nous expliquer pourquoi un tel est mort, pourquoi un tel a disparu, qui est le sale pollueur du coin, etc.
Exactement, c'est
Ouais,
vrai que
et
ça fait
donc du
un...
coup, ça y est, voilà, le groupe a quelque chose, il y a vraiment un but commun avec des personnages qui sont vraiment liés les uns aux autres, alors qu'effectivement, on va dire dans le setup traditionnel de l'appel de Cthulhu, c'est plutôt les personnages qui se rendent compte d'une situation extrêmement complexe, enfin en dehors de ma tante est morte et puis il faut que j'aille récupérer sa vieille
sa
maison.
maison. Et
Qu'il y a
c'est vrai que
souvent
c'est
des traits.
exactement, c'est vrai que c'est exactement ça. C'est-à-dire que autant dans l'appel de Toulouse, on va avoir 90% de la partie où va falloir finalement les mettre les personnages les uns avec les autres sans trop savoir pourquoi. Et finalement, ils seront leur groupe sera justifié à partir du moment où ils seront dans le stress, dans l'horreur et dans l'action, quoi que ce soit. Autant là, une partie de Delta Green dès le début. Et ils ont une vraie justification à être ensemble, et donc on peut commencer. Et alors, ça veut pas dire qu'on commence tout de suite dans l'horreur, mais ce que dit De Marini, c'est-à-dire que ça peut être, bah voilà, vous pouvez commencer par c'est des agents de l'ATF, et puis c'est une prise d'otage, et ben voilà, ils sont envoyés sur la prise d'otage parce que je sais pas, on a regardé dans le casier du preneur d'otage et apparemment il faisait des choses un peu particulières, il était peut-être dans l'ésotérisme, il a peut-être fait partie d'un groupuscule ou des choses comme ça, et vous pouvez vous retrouver sur des missions finalement diverses et variées et qui vont arrêter, qui vont vous amener plus ou moins rapidement sur le mythe, mais vous avez déjà une justification à être ensemble.
Ouais, et du coup, tout ce qui est implication des investigateurs, démarrage, enfin, se fait naturellement. Il y a plus ces questions un petit peu, on va dire, de logistique.
Ouais.
Tout est déjà positionné. Après aussi, pour tout ce qui concerne les problématiques un petit peu d'argent, on va dire aussi d'accès à de l'armement
À
ou à de
l'information,
de l'information. Et voilà, tout
tout
ça.
l'équipement, la vie quotidienne.
Tout ça fonctionne bien et sur du velours tranquille, on a beaucoup moins à s'en soucier, alors qu'autrement, effectivement, on a tendance à compter les cents, qui va payer
Voilà, mais est-ce qu'il y a une
le
cabine téléphonique?
bateau,
Exactement, ouais.
est-ce qu'il y a des...
Donc
Donc
c'est vrai
ça,
qu'à ce
c'est
niveau-là, on viendra un peu dessus après, parce que en effet, cette facilité, ça peut être aussi déroutant pour le gardien, hein, parce que du fait que les joueurs connaissent bien le setting, connaissent bien le cadre, ils ont plus de facilité à être des merdards, à se débrouiller et à sortir du scénar, quoi. C'est-à-dire que ben voilà, on sait à quel moyen on peut faire appel. Autant dans les années 20, on va dire au gardien, est-ce qu'on peut avoir une cabine téléphonique? Et puis là, si ça fait chez le gardien, il va dire, non, il n'y en a pas dans le coin. Puis bon, le temps que vous alliez vérifier, c'est bon, le scénar est fini. Alors que là, dans les années 90, bah oui, non, il y a des cabines téléphoniques, on se déplace rapidement avec les voitures, il y a des satellites, il y a le début d'Internet et tout ça. Donc c'est vrai que
Et du
c'est
téléphone portable aussi.
le téléphone portable, hein, moi je me suis fait avoir à mes premiers scénars et tout. Ouais, mais c'est bon, je te localise, hein, comment ça? Ah merde, le téléphone portable! Disons que ça va vous créer aussi, il faut se préparer, hein, à jouer à Delta Green. Ça se fait pas comme ça dans un claquement de doigts. Et comme c'est un historique riche, ça se demande à bien lire et tout, mais finalement vous n'aurez qu'à lire le bouquin et tout le cadre, tout le background, vous l'avez déjà, quoi. Donc ça c'est quand même déjà un gros plus à ne pas que vous n'avez pas besoin de travailler. Il faut quand même le travailler parce que ben on connaît pas forcément tous bien les États-Unis sur le bout des doigts. Mais bon, ça, à l'heure actuelle, avec Internet, Google, Wikipédia, très honnêtement, à retrouver le plan d'un parc national, retrouver le plan des routes, avec Google Maps, des choses comme ça, vous avez vraiment à disposition tout, quoi. C'est-à-dire que on peut monter un scénario à n'importe quel endroit du globe à l'heure actuelle avec Delta Green.
Voilà, ou alors on peut aussi se gaver de séries américaines
Oui, tout à fait.
pour comprendre effectivement. C'est vrai qu'il y a aussi cette partie-là un petit peu, on va dire, jeu d'initiation qui existe dans le cadre de Delta Green, qui est un petit peu plus compliqué, on va dire, pour un Français. Pourquoi? Bah parce qu'il baigne pas justement dans cet univers américain et qu'il y a toujours un petit peu un décalage en ce qui nous concerne, malheureusement.
Voilà. Surtout qu'en plus on a le cadre, mais alors là on va pas trop vous en parler, mais derrière le cadre, je dirais investigation contemporaine, tout ça, il y a une sorte de trame cachée, donc elle
Voilà.
on va pas trop pouvoir vous la dévoiler. On va l'aborder parce que on détermine qu'il y a finalement deux façons de l'aborder. Il y a une façon qu'on va vous conseiller qui est plutôt lente. Et puis une version plus rapide.
Tout
C'est-à-dire
à
que
fait.
vous avez à l'époque à l'époque, bah, même encore maintenant, il y a des jeux comme alors bon, ça va faire bondir certains, mais comme les jeux de vampires et tout ça, tout ce qui est monde des ténèbres, qui finalement sont des jeux où vous jouez des scénarios, mais sur une trame de fond beaucoup plus grande. Et ben comme dans X-Files, Delta Green repose finalement sur une trame de fond bien enfouie, que vous ne verrez se dévoiler que au bon vouloir du gardien. Et là, on a en effet un 2M, on a deux choix finalement pour faire entrer les investigateurs, je dirais, dans le vrai Delta Green.
Voilà, tout à fait, effectivement, parce qu'on, sans trop rien dévoiler, on est vraiment dans un cadre de théorie du complot, on est vraiment dans un cadre de services secrets, de différents niveaux de lecture des événements, chose qui préexiste d'ailleurs déjà dans l'appel de Cthulhu, puisque le setup, c'est de dire le monde réel n'est pas celui qu'on imagine, et en fait, dès qu'on est sorti du cadre bien connu de la vie de tous les jours, bah, se cache quelque chose d'effroyable. Voilà, donc on va dire dans le setup de Lovecraft, on avait vraiment la mort, la folie. On va dire dans le cadre Delta Green, on retrouve ça aussi, mais on a une progressivité un petit peu différente, où on a vraiment la paranoïa qui est mise en avant,
Parce que,
avec,
en effet,
avec,
ouais.
Voilà, est-ce que je travaillais vraiment pour dans le bon camp les gars qui sont en face de moi, voilà, est-ce que c'est des gentils, est-ce que c'est des méchants
On a moins de repères manichéens, ouais.
Voilà, c'est-à-dire qu'on se retrouve aussi beaucoup quelque chose qui n'existe pas dans l'univers Lovecraftien, c'est vraiment ça, tout cet aspect service secret. Double jeu, etc. Mais là, vraiment sur l'humanité et pas juste sur des sectateurs qui bien évidemment eux jouent un double jeu parce qu'ils donnent une façade et en fait derrière ce sont des malades mentaux. Là, on est face effectivement avec à la fois de vrais services secrets,
des vrais manipulateurs,
de vrais manipulateurs, mais qui sont simplement humains et qui font le jeu. Bah, qu'on connaît dans la vie réelle,
oui, ouais.
avec des ventes d'armes, avec des services secrets,
sur les médias,
voilà, des armes de destruction massive en Irak que personne n'a jamais trouvé et qu'après personne n'a même essayé de contester au final en disant que oui bah on a menti alors hein.
Ouais, alors que nous on sait.
Voilà.
Il y en avait.
Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire que le monde d'aujourd'hui, celui des années 2000,
fourmille
justement de ces choses qu'on trouve ensuite dans Delta Green, et on dirait, enfin d'une certaine manière, Delta Green c'est un petit peu une espèce de précurseur dans ces éléments, et même si on transpose aujourd'hui plus de 10 ans plus tard. On est encore toujours dans une très grosse actualité en fait. Et justement,
ah oui.
dans la manière de jouer, ben on a la possibilité justement de le faire, on va dire d'une manière un petit peu tranquille, pépère, vraiment très proche de la X-Files avec du scénario qui va amener petit peu par petit peu, où on découvre en fait un certain nombre de choses et où les personnages arrivent au fur et à mesure à
l'homme à la cigarette
et faire les différentes couches de l'oignon et
ouais.
Se rendre compte que bah non, finalement ce que j'avais compris c'est pas ça, c'est beaucoup plus compliqué ou alors on a une manière brutal de vraiment rentrer, on va dire, dans l'horreur et dans la lutte armée effective face au mythe. Alors
voilà.
On va dire cette lutte armée effective, c'est pas le setup originel de Delta Green. Delta Green est vraiment présente vraiment les choses dans la finesse et
ouais.
propose effectivement de rentrer dans un setup. Hein, si vous êtes fan vraiment de tout ce qui est service secret.
Ouais.
Là, il y a vraiment beaucoup de choses à développer.
C'est du bonheur.
Par contre, d'un autre côté, ça demande aussi, on va dire, beaucoup plus de travail. C'est-à-dire qu'il
ouais.
faut aussi savoir un peu comment ça fonctionne, comment fonctionnent des cellules terroristes, comment fonctionnent des services secrets, comment fonctionne la désinformation, pour arriver
ouais.
vraiment à faire quelque chose de dense et de cohérent. Voilà, ça demande un travail qui là, on va dire, dans le supplément, voilà, dans le supplément. On effleure un peu tout ça.
On n'a pas tout, ouais.
Voilà,
ouais.
On n'a pas tout. En revanche, ça donne malheureusement une bibliographie très conséquente, mais américaine, et
ouais.
pour lesquelles on a peu de, enfin tout au moins on avait à l'époque peu de traductions, mais pour lesquelles il existe aujourd'hui de nouveaux, enfin soit des nouvelles éditions, soit parce qu'on a aussi des gens en France qui s'intéressent énormément à ces questions, et enfin notamment suite aux problèmes avec les réseaux Al-Qaïda, etc. et tout ce qu'on connaît des suites du 11 septembre, les interventions en Afghanistan, etc. Voilà. En France, on va dire qu'on avait un peu une espèce de culture du secret sur ces éléments qui mettait une chape de plomb et où on disait bon, c'est vrai, on est une démocratie, on a un service secret, mais bon, enfin, on est des gentils et tout va bien.
Ouais, c'est nous les gentils. Ouais.
Voilà. Alors qu'on voyait notamment lié à la guerre froide, la CIA, c'était vraiment cette pieuvre monstrueuse qui intervenait dans
partout,
tous les coins du
ouais.
globe, etc. Et en France, même si les services secrets français faisaient des choses à peu près équivalentes, mais à un niveau moindre, lié aussi à un budget plus faible,
c'est ça.
Faut pas se le cacher. Hein. Aujourd'hui, on a une beaucoup plus grande transparence sur tous ces éléments, et on a vraiment de la littérature. sur lesquels on peut se reposer, donc, sachant qu'en plus on a aussi d'anciens agents qui se sont mis à parler, qui ont fait des livres, etc.
Là, je dirais qu'on va attaquer le côté peut-être parler des inspirations. Donc comme tu disais, il y a déjà pour les bouquins, il y a énormément de bouquins. C'est vrai que on retrouve l'ex-commandant machin en chef des renseignements généraux qui parle. Il y a pas mal de bouquins. Je pense que c'est à ça que tu pensais, quoi, les bouquins de grand déballage.
Voilà, c'est ça. Ça, c'est affaires. C'est très couru, quoi. Les anciens espions qui faisaient partie du 11e choc, ou les anciens responsables de la DST. Enfin, ça, surtout les anciens responsables de la DST, ça commence à devenir un peu une espèce de tradition.
C'est que quand t'es sorti du truc, tu racontes.
Voilà, et on fait son bouquin, même si c'est pour ne pas tout dévoiler, bien évidemment, parce qu'ils sont quand même malgré tout tenus au secret, puis il y a encore des opérations en cours.
Ouais.
Mais ils aiment bien notamment faire, on va dire, un peu les gorges chaudes entre les relations entre les politiques et puis ces services.
C'est le mi-chemin entre le mea culpa et le « je fais monter la sauce si... » Je vous en dévoile un peu et vous imaginerez tout ce qui est caché en dessous de l'iceberg, quoi.
Voilà.
Et
puis aujourd'hui, on va dire, notamment après la mort de Mitterrand, tout ce qui concernait l'affaire du Rainbow Warrior, il y a plus tellement de secrets sur cette histoire-là. Alors par contre, vous saurez pas tout sur les secrets de l'intervention, des derniers réseaux, la France qui travaille avec les États-Unis pour lutter contre le terrorisme d'origine islamique, etc.
Ça
va rester en filigrane, bien évidemment. Voilà, mais dans Delta Green, on a vraiment un
set. Là-dessus, vous pouvez vraiment puiser. Alors, en plus, en point de vue bouquin, vous pouvez aussi beaucoup puiser. Il y a pas mal d'ouvrages aussi américains, j'irais actuels. Alors bon, je vais prendre Dan Brown ou des mecs comme ça, mais ça fait quand même des sources d'inspiration sur des pans un peu mystiques de nos sociétés que on commence à révéler. Ça peut être, vous pouvez avoir une campagne qui commence par les premières personnes qui vont avoir accès au dossier sur l'assassinat de Kennedy. Vous pouvez avoir, enfin, disons que vous avez une culture. Vous avez les livres, vous avez le web regorge de sites. En plus, quand vous ajoutez aux sites à peu près, j'irais normaux, tous les sites conspirationnistes avec les ricains dans leur coin qui vivent calfeutrés chez eux et qui savent tout ce qui se passe et ce genre de choses, ça vous fait aussi des ressources. Enfin, très honnêtement, il y en a vraiment un paquet.
Oui, il y a aussi tout un tas de sites qui parlent de toutes les vieilles histoires sur les ovnis, qui
on peut même retrouver des documents. On peut même retrouver des documents en PDF, j'avais vu, il y avait le rapport sur des trucs genre Roswell et tout, qui ressortent maintenant.
Voilà, en fait, en plus, on arrive à retrouver des choses, même depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec toute cette partie un peu mystique qu'avaient les nazis.
Ouais.
Où on avait aussi effectivement des gens qui étaient dédiés à rechercher d'anciens items de l'époque des Vikings, des Gaulois, enfin voilà.
Voilà, c'est finalement ça.
Après, effectivement, avec Indiana Jones.